Et à midi, on aime l'été. Bonjour à vous toutes et vous tous. Aujourd'hui, 5 juillet 2017, Clotilde Saye, bien sûr, pour vous accompagner à cette émission Aime l'été, en compagnie d'ailleurs de mes camarades, notamment Jean-Sébastien La Liberté, que je remercie toujours trop vite. L'émission, Sylvie Rivard aussi, qui assume le booking et une partie de la recherche de cette émission-là. Alors voilà pour l'équipe que j'ai pris le temps de... à qui j'ai pris le temps de faire un petit bonjour, un petit coucou aujourd'hui. Et puis, bien sûr, il y aura des invités, juste après quelques nouvelles que je vais vous lire dans quelques instants. Il y aura d'abord une chronique littéraire que je vais vous proposer, des livres que je suis ou que je vais ou que j'ai lus et dont j'ai très envie de vous parler. Je vais m'adresser à Madame Hélène Larivière aussi, qui est directrice générale de l'EPIC de Saint-Malo, qui est un centre de jour et un lieu d'hébergement pour des personnes handicapées mentales et physiques. Elles sont reçues en français et en anglais. On se transporte à l'extérieur de notre province. Et puis également à l'émission, Frédéric Palardy, directeur de Les Impatients, au sujet de l'expo qui est encore en cours jusqu'au mois d'octobre et qui s'intitule « J'ai le goût de vous parler ». Et nous finirons avec Kevin Lamy, qui est coordonnateur des promotions des amputés de guerre, de l'association des amputés de guerre. Et en ce moment... on va parler du séminaire qui a lieu, du séminaire pour enfants handicapés, les vainqueurs, alors qu'une centaine de jeunes amputés de partout au Québec se réuniront à Laval pour assister à ce séminaire, les vainqueurs. Alors, pour commencer, quelques nouvelles. D'abord, la terrasse de l'ITHQ, bientôt accessible. Oui, l'Institut de tourisme et de l'hôtellerie du Québec à Montréal promet que sa terrasse sera accessible aux fauteuils roulants après avoir reçu une mise en demeure et une demande de l'arrondissement du plateau Mont-Royal. Pour le moment, il faut grimper 3 marches pour atteindre la terrasse à partir du restaurant. On regarde les possibilités, ça peut être une plateforme élévatrice ou peut-être une rampe pour rendre accessible de l'intérieur la terrasse pour les clients à mobilité réduite, a mentionné le directeur général associé de l'Institut Paul Caccia, mardi, hier donc. Le maire de l'arrondissement du plateau Mont-Royal, Luc Ferrandez, a aussi évoqué que l'ITHQ cherche activement une solution et que selon lui, on devrait avoir un débouché dans ce dossier-là dans les prochaines heures lors du conseil d'arrondissement. De mardi, la présidente du regroupement des activistes pour l'inclusion au Québec, le RAPLIC, Linda Gauthier, a qualifié de très, très bonne nouvelle cette annonce, mais a souligné qu'elle agira si les changements ne sont pas à la satisfaction de l'organisme. Madame Gauthier compte bien porter plainte si la terrasse n'est pas accessible d'ici le 14 juillet. Madame Gauthier a notamment aidé la semaine dernière le bar Renard à obtenir un sursis concernant sa terrasse accessible pour tous, que l'arrondissement Ville-Marie qualifiait d'illégal. La dame aux colandes du RAPLIC déplore que certaines lois et préséances sur la Charte des droits et libertés, comme dans le cas de la terrasse de l'ITHQ. On dirait que toutes les lois sont au-dessus de la Charte, regrette Madame Gauthier. M. Ferrandez a répondu que l'arrondissement est impuissant dans cette situation. Ce n'est pas un manque de diligence, de vigilance, ce n'est pas un manque de sensibilité, c'est l'obligation de se conformer à la loi, a expliqué M. Ferrandez. Ça nous vient de TVA-nouvelle.ca. Les soins d'hygiène en CHSLD sont adéquats, répète le ministre Barrette, à la suite du cri du cœur de cette résidente du CHSLD de Mont-Tremblant, qui réclame plus d'un bain par semaine. Le ministre de la Santé continue de son côté à marteler qu'un bain par semaine, c'est suffisant. Gaëtan Barrette estime que les services d'hygiène dans les CHSLD du Québec sont adéquats et offerts de façon tout à fait correcte. Mais il prétend que la situation ne justifie pas l'envoi d'une directive ou d'une politique qui imposerait aux établissements un nombre minimum de bains ou de douches que les résidents devraient recevoir. « Est-ce que les choses peuvent être améliorées ?» demande le ministre. « Tout peut être amélioré. Évidemment, j'en conviendrai toujours. » Le gouvernement Couillard affirme qu'il ne s'agit pas d'une question d'argent et que les soins peuvent être aussi bien dispensés à la débarbouillette. Autre raison également invoquée, certains résidents n'aiment pas prendre un bain ou une douche. Les aînés qui veulent et qui peuvent prendre un bain devraient avoir au minimum 2 bains par semaine. soutient le porte-parole de la coalition Avenir Québec en matière de santé, François Paradis. C'est une norme qui existe en Ontario, c'est légal, il y a une obligation de donner deux bains. Pour sa part, Dave Turcotte, porte-parole du Parti québécois en matière de services sociaux, trouve odieux que ce gouvernement, qui a en ce moment 2,5 milliards de dollars de surplus, se batte pour ne pas payer un deuxième bain ou douche à nos aînés. Rappelons que dans un reportage diffusé hier à TVA Nouvelles, Marceline Harvey, atteinte de sclérose en plaques, a décidé de s'adresser au protecteur du citoyen pour que les personnes qui le désirent aient droit à au moins deux bains ou deux douches par semaine. La résidente du CHSLD de Mont-Tremblant, qui est clouée à un fauteuil roulant, conteste le fait qu'une seule évaluation médicale puisse déterminer la fréquence des bains que peuvent obtenir les résidents en centre d'hébergement. Suppression de postes en santé mentale à l'hôpital de Chicoutimi, c'est un texte de Jean-François Tremblay dans le Journal de Québec. La réorganisation des unités en santé mentale à l'hôpital de Chicoutimi fait grincer des dents les syndicats qui déplorent des coupes de postes et craignent pour les soins aux patients. 19 postes vacants d'infirmières et d'auxiliaires ne seront pas renouvelés. 4 autres postes occupés par des infirmières auxiliaires sont également abolis. En revanche, 5 postes à temps partiel seront affichés. Concernant les postes d'auxiliaires, le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux, le CIUS du Saguenay-Lac-Saint-Jean, a soutenu qu'il tentera de conserver l'expertise de ce personnel sur le département en affichant d'autres postes. Dans la dernière année, 36 des 56 lits en santé mentale ont été occupés. La direction prépare donc une équipe médicale pour 46 lits dès la mi-septembre. Dans le département de réadaptation en santé mentale pour adultes, on retire la fin de semaine 2 des 7 jours de travail d'une éducatrice spécialisée qui prépare les patients à retourner à la maison. Il ne restera qu'une seule personne à temps plein. Toutefois, le CIUS a ajouté 5 jours en travail social. Les syndicats acceptent mal que la santé mentale écope encore. La perte des heures en réadaptation sera effective. À compter du 17 septembre, pour les postes d'infirmières auxiliaires, leur abolition est attendue quelque part en automne. Madame Brie ajoute qu'elle n'est plus capable d'entendre le discours voulant que les compressions en santé n'affectent pas les soins aux patients. Et puis ailleurs dans le monde, un article de epochtimes.fr nous apprend que la première transplantation de tête au monde sera bientôt réalisée sur un patient paraplégique. On pensait cette transplantation de tête réservée aux films de science-fiction, mais le chirurgien italien Sergio Canavero pourrait bientôt réaliser pour la première fois cette opération historique. Elle a été sujette à controverse, de nombreux médecins la considérant comme insensée. Ignorant tout cela, un homme russe nommé Valery Spiridonov a accepté qu'on réalise sur lui cette opération. Ce monsieur est un paraplégique de 30 ans qui souffre de la maladie de Wernicke-Hoffmann, une forme d'amyotrophie spinale. Valérie a passé les 20 dernières années de sa vie dans un fauteuil roulant. Son état n'a fait qu'empirer. Il a déclaré « Je peux à peine bouger mon corps. J'ai 30 ans et de nombreuses personnes ayant ma maladie n'ont pas vécu plus de 20 ans. Je n'ai moi-même plus beaucoup de temps et lorsque j'ai entendu cette information, j'ai immédiatement contacté le chirurgien. Je ne peux pas vivre plus longtemps dans ce corps. Au cours des 2 dernières années, nous avons communiqué par email. J'ai bien sûr peur, mais je n'ai pas vraiment d'autre option. C'est pour moi une rare opportunité. » Dans une interview avec CNN, le docteur Canavero a indiqué que la tête de Valérie serait transplantée dans le corps d'une personne inconsciente et dans un coma profond. Le patient et le donneur seront tous deux opérés en même temps. La tête du patient sera transplantée dans le corps du donneur avec une substance semblable à la colle appelée polyéthène glycol. Ce composé permet de favoriser la réparation de la moelle épinière lors d'un traumatisme cervical. Après l'implantation de la tête proprement dite, le chirurgien devra encore rattacher les muscles et les vaisseaux sanguins du patient, de façon à empêcher la tête et le corps de se rejeter l'un l'autre. Il est nécessaire d'utiliser un médicament fortement immunosuppresseur, on s'en doute. Le patient restera dans le coma immobile pendant 4 semaines avant que la tête et le corps ne soient rétablis. À son réveil et en cas de réussite, le patient pourra ressentir, se déplacer normalement et garder sa voix d'origine. Le docteur Canavero et une équipe de 150 médecins prendront 36 heures pour effectuer l'opération pour un coût total de 10 millions d'euros. finalement, les trois livres que je vais vous proposer sont très sages. Mais quoique. Bon, trois livres, oui, que j'ai envie de vous proposer dans cette chronique littéraire. J'allais dire trois bouquins d'été, parce que ce sont des livres qui ne nous conduisent pas forcément sous le soleil, mais parce qu'ils nous sortent de l'ordinaire, sûrement de notre ordinaire, en tout cas le mien. Et le premier, ben écoutez, c'est celui que je dévore en ce moment même. C'est un polar. Un peu fou, je dois dire, terriblement surprenant, complètement terrifiant à certains moments. Alors oui, on est très loin, très très loin du roman à l'eau de rose ou de la très proprette Agatha Christie, je vous le dis tout de suite. Ça s'appelle « Toutes les vagues de l'océan ». C'est signé Victor del Arbol, autrement dit Victor de l'Arbre, et c'est un Barcelonais, Victor del Arbol, « Toutes les vagues de l'océan ». Bon, alors les 100 premières pages de ce livre, qui en fait quand même 600, alors c'est un bon 12-13 heures de lecture à haute voix. Les 100 premières pages, je disais, faut suivre. Un enfant se fait assassiner, l'assassin de l'enfant se fait à son tour trucider, et celle qu'on pense avoir assassiné l'assassin de l'enfant se suicide. Enfin, se suicide, ça, je vous laisse découvrir la chose. Alors, est-ce qu'il s'agit d'un simple règlement de compte ? Oh que non ! À partir de là, nous voici partis en Russie, dans une prison austère, et puis ensuite on va se déplacer sur une île où le cannibalisme fait loi, et puis on va se retrouver en Espagne au lendemain de la guerre civile. À un moment donné, aussi, il y a quelques pages qui nous amènent pendant la guerre mondiale, la résistance, on va suivre les débuts et le développement de la mafia russe. Et puis, je vous le disais, on va se transporter beaucoup dans les rues de Barcelone, dont l'auteur de ce livre, Victor del Arbol, est originaire. Voilà un peu tous les ingrédients de cette vinaigrette un peu noire, oui, c'est vrai, mais très très prenante qu'est ce livre, ce polar, un très bon polar d'été qui s'appelle, je vous redonne le titre, « Toutes les vagues de l'océan » et qui, bien sûr, est disponible en version audio adaptée. Bon, changement de décor maintenant, c'est le cas de le dire, avec Fabrice Lucchini qui nous offre « Comédie française ». Ça a commencé comme ça, voyez-vous, on est très très loin du polar. Lucchini, le bien-aimé de Montréal, qui la lui rend bien d'ailleurs, parce que c'est un habitué de Montréal, Fabrice Lucchini adore venir là. Lucchini qui force l'admiration et qui force l'écoute. On ne peut pas nier le contraire. Quand Monsieur Lucchini ouvre la bouche, tout le monde l'écoute. C'est un habile communicateur et on s'aperçoit parfois qu'il peut dire d'ailleurs quelques énormités, mais il dit ça avec un tel charisme, avec une telle verve que nous, les autres, eh bien, on en reste sans voix. Alors, j'avais très hâte de me délecter de ce livre qui, pensais-je, allait me révéler beaucoup sur cet étrange individu dont la parole nous hypnotise tant et, eh bien, j'ai été déçue. Alors, vous me direz pourquoi je vous en parle ? Ben, parce que j'ai envie que, peut-être, vous vous fassiez une tête sur ce livre-là. Pourquoi je ne vous parlerai que de livres que j'aime ? D'abord, quand je dis déçu, le mot est un petit peu fort. Il y a des passages que j'ai beaucoup aimés dans ce livre-là, mais je vous dirais que je l'ai pris un petit peu comme une grande leçon d'élitisme qui parfois m'a profondément agacée et qui parfois m'a profondément séduite. Bon, par exemple, lorsqu'il est question de ses rencontres à n'en plus finir avec d'autres grands de ce monde dans le domaine des arts, dans le domaine de la littérature, de la peinture et tout ça, je vous avouerai que je me sentais un petit peu exclue. C'est comme si on me donnait, oui, la possibilité de voir un tableau, mais de loin. Et ça m'a, oui, un petit peu dérangée. Par contre, il y a d'autres. Il y a des moments, évidemment, touchants et surtout très surprenants. Quand, par exemple, au tout début, on apprend qu'il avait poursuivi des études de comptabilité. Je dis poursuivi parce qu'il ne les a jamais rattrapés. C'était vraiment pas son truc. Et puis, à un moment donné, sa mère, ne sachant que faire de lui, l'avait mis comme apprenti chez un coiffeur, voyez-vous. Alors, comme quoi, tout peut mener à tout. Et donc, c'est ce livre de Fabrice Lucchini, Comédie française, ça a commencé comme ça. Si vous l'aimez, peut-être que je vous l'ai remis en mémoire et peut-être que vous aurez envie de se plonger dans ce bouquin. Et puis, enfin, un livre que je veux lire. Je veux le lire passionnément, calmement, infiniment. Parce que c'est du Stephen King, mais c'est du Stephen King qui ne fait pas du Stephen King, donc qui ne fait pas dans l'horreur. De la même façon que j'adore Henning Mankell quand il ne fait pas dans le polar. Et là, Stephen King nous invite à remonter le temps. Et si nous avions pu changer le cours de l'histoire à une date bien précise, le 22 novembre 1963, le jour où JFK a été assassiné, sous nos yeux d'ailleurs, qui n'avait pas encore le choix à l'époque entre 874 chaînes de télévision, souvenez-vous. Et c'est une brique immense que ce livre-là, écoutez, il y a près de 1000 pages. C'est une des plus formidables histoires de voyage dans le temps depuis George Wells, dit un critique dans le New York Times. Un autre dans le Miami Herald a dit « c'est la quintessence du talent de King ». Dans Time Magazine, on a déclaré l'œuvre d'un génie. Voyez-vous, c'est vraiment un grand, grand, grand bouquin. C'est pour ça que j'ai très hâte de le lire. Mais la seule chose que je reproche à ce bouquin, ben c'est son côté gigantesque, somme toute. Parce que je trouve qu'il faut avoir un temps infini pour se lancer dans une telle brique. Et surtout, il faut avoir, moi, je pense, une disponibilité intellectuelle. Je ne sais pas pour vous, mais moi, quand je me plonge dans un bon et volumineux livre, comme celui-ci, j'en suis tellement imprégné que j'ai du mal à travailler, à faire le reste. En fait, je procrastine beaucoup et je vis au milieu de ces pages-là. Ce qui est quand même très, très délicat quand on a une job à faire tous les jours, vous en conviendrez. Et puis en vacances, eh bien alors là, vu que ça fait 1000 pages, faut vous passer quasiment toutes vos vacances avec ça. Alors c'est peut-être le seul reproche que je fais, si ce n'est que si vous prenez deux bons gros bouquins comme ça à droite et à gauche, il y a peut-être moyen de faire un petit peu de... un petit peu de musculation. Voilà. Écoutez, ce livre de Stephen King, je vous en rappelle le nom, 22-11-63. 22-11-63, oui, ça vous rappelle forcément quelque chose.
L-A-E dans T-I-T-I-A. Sur ma Remington portative, j'écris ton nom, Laetitia. L-A-E dans la T-I-T-I-A. Laetitia, les jours qui se suivent, hélas, ne se ressemblent pas. L-A-E dans la T-I-T-I-A. C'est ma douleur que je cultive en frappant ces huit lettres-là. L-A-E dans la T-I-T-I-A. C'est une fleur bien maladive, je la touche du bout des doigts. L-A-E dans la T-I-T-I-A. S'il faut aller à la dérive, je veux bien y aller pour toi. L-A-E dans la T-I-T-I-A. Ma raison en définitive se perd dans ces huit lettres-là. L-A-E dans la T-I-T-I-A.
Et nous revoici en ondes, bien sûr, avec Madame Jane Birkin, qu'on entendait chantant du Gainsbourg. Quoi d'autre ? Quoique quand même, elle a chanté d'autres personnalités aussi, mais c'est vraiment Monsieur Gainsbourg qu'elle a le plus longtemps aimé et chanté. Et j'ai devant moi Monsieur Pallardy, bonjour.
Bonjour,
ça va bien. Regardez, installez-vous parce qu'il vient juste d'arriver. Vous savez, ici, c'est comme une grande famille. Et puis dans le studio, ça va, ça vient. Oui, oui, vous pouvez.
Ça va comme ça.
Ça va comme ça, voilà. C'est puis bon. Là, vous avez un casque,
oui,
à côté de vous.
Oh, j'en ai pas besoin.
Vous n'en avez pas besoin.
Très bien, mais
c'est
est-ce
vrai
que ça va mieux si je me
Oui, parce que j'aime mieux quand vous vous entendez. Sinon, les gens s'éloignent du micro. micro. Là, vous allez tout savoir de la petite cuisine de studio.
C'est parfait, je suis bien installé.
Alors, comme, regardez, vous vous installez. Voyez-vous où je suis par rapport à mon micro ?
Oui.
Je vais vous demander la même chose.
Parfait.
Voilà, on sait tout de la cuisine. Comment allez-vous, Frédéric ?
Ça va très bien, et vous ?
Ça
Merci
va bien,
de m'avoir invité.
Mais je vous en prie, vous n'êtes pas très loin, Frédéric Palardy, en tant que directeur de Les Impatients. Vous êtes donc sur Sherbrooke, célèbre adresse maintenant, mais peut-être encore qui mérite qu'on en parle et reparle et reparle. Et c'est pour ça que ça me semblait important qu'on vous invite à plusieurs reprises durant cet été.
Oui, c'est très gentil. Je suis vraiment honoré que justement on puisse faire une série d'entrevues pour un peu élaborer sur le sujet
bien
et des
sûr.
Impatients et des expositions à venir, des expositions en cours.
Voilà. Alors, aujourd'hui, on va beaucoup s'intéresser à l'exposition en cours. Mais quand même, pour nous dresser un petit portrait de ce que sont les impatients, le titre, le contraire des patients ou...
Oui, un peu. En fait, un peu plus complexe que ça, mais beaucoup ça, c'est-à-dire on traite les gens pas comme des patients, mais comme des personnes.
Oui.
Et des impatients, ce sont des gens qui sont impatients d'arrêter de souffrir.
Oui.
Et en plus, il y a une référence à la fleur impatiente.
Donc oui!
Donc, une fleur qui pousse bien à l'ombre.
Oui.
Un peu comme les gens qui souffrent de santé mentale, de problèmes de santé mentale.
Oh, quelle jolie image!
C'est beau, hein?
Oui, c'est très, très beau. Je n'avais pas pensé à ça. C'est très joli. Et on parle là, donc, d'art-thérapie.
D'art thérapeutique. Oui.
Grosse différence. Hein?
En fait, il y a une différence assez grande quand même.
Oui, oui.
Que je peux résumer peut-être en une minute. Très rapidement, je donne toujours le même exemple. Il y en a, c'est un peu gros hein, comme
oui,
exemple
là,
pour qu'on
grave.
Comprenne. Art-thérapie, par exemple, les participants vont arriver dans un atelier. Il y a un animateur, donc un art-thérapeute, qui va leur dire « Aujourd'hui, on va dessiner la colère. » Et donc, ils font un dessin sur la colère. Et ensuite, on va voir ou s'exprimer par rapport à notre dessin et un peu analyser, là, donc faire une thérapie,
oui,
entre
je
guillemets.
Comprends.
Par rapport à ce qu'ils ont ressenti.
Oui.
Art thérapeutique, on ne fait pas ça du tout. Donc, on fait plutôt, on laisse l'art...
Oui, s'exprimer.
S'exprimer. Donc, jamais de retour forcé, pas de questions. Les gens entrent chez nous, ils sont libres de créer.
Oui.
Donc, c'est vraiment l'art qui devient thérapeutique.
Et alors, il y a tous ces ateliers et ces gens qui viennent peindre et qui s'expriment aussi par le mot. Parce que là, je voudrais qu'on arrive sur l'exposition en cours qui s'appelle « Si je ne m'abuse, j'ai le goût de vous parler ».
Oui.
Et là, oui, j'imagine qu'on retrouve quand même quelques peintures.
Oui, on retrouve.
Mais beaucoup de mots.
Beaucoup de mots, en fait. Ce sont des mots, parce que par la force des choses, ce sont des mots, mais ce sont des titres d'œuvres. Le défi était, c'est une exposition... commémorative des 25 années d'existence des impatients.
Déjà.
Et il faut comprendre qu'on a plus de 15 000 œuvres dans la collection. Donc, c'est impossible de faire une exposition de 15 000 œuvres. Alors, ce qu'on a décidé, c'est de faire une exposition de titres. Je vous amène une photo, peut-être, vous allez pouvoir m'aider parce que c'est très difficile
à décrire. Mais oui, exactement. Alors, écoutez, elle est en quatre parties. Hein. Alors, effectivement, et ça, c'est ce qu'on retrouve sur le site Internet,
hein, oui.
Notamment. Il y a... Est-ce que c'est une sculpture, le cheval?
Oui, exactement. Donc, il y a des œuvres physiques, donc des
c'est
sculptures.
C'est ça, d'accord.
Des tableaux, donc des peintures. Mais il y a aussi 300 titres d'œuvres.
D'œuvres, exactement. Alors là, je voudrais vous en citer quelques-unes, si vous me le permettez,
parce
que comme je les ai sous les yeux, j'ai raté un dessin. Oui. Poisson-souris.
Oui.
Je rentre au restaurant, un escalier carré, Big Brother nous regarde. Oui, hein, ça c'est... J'étouffe. Hein? Un trop plein ou un trop vide? Oh!
Quand même.
Oh!
Et ce qu'il faut comprendre, c'est que tous ces titres-là sont associés à une œuvre.
Bien
Donc,
sûr.
Ce ne sont pas que des mots, ce ne sont pas que des lettres. Il y a une œuvre qui
c'est
va
pas grave.
Avec.
Et le iPhone va avec le bonhomme, et c'est normal.
Exactement.
Vous êtes réclamé beaucoup, alors ne vous inquiétez pas.
Je l'étais.
Il n'y a pas de problème, Frédéric, il n'y a vraiment pas de problème. Alors, donc vous disiez que c'est ça, ce sont vraiment des titres qui... C'est comme ça qu'on appelait les
C'est comme
les
ça qu'on appelle chaque œuvre.
D'accord.
Et au fond de la salle, donc il y a des titres partout dans la salle, et au fond de la salle, il y a deux écrans un sur lequel apparaît le titre,
oui,
et sur l'autre apparaît l'œuvre en question. Mm. Donc, on peut faire l'association « Laisse-moi pas tomber »,« J'étouffe oui. »,« L'océan de mes lacunes », donc toutes des titres oui. d'œuvres. Oui. Et là, on voit l'œuvre physique, c'est-à-dire le dessin, parce qu'on peut se faire toutes sortes d'images dans notre tête.
Exactement.
Il y a beaucoup de jeux de mots, par exemple, le cognac cogne, les bêtes m'embêtent. Donc, oui. c'est des fois très émouvant, mais aussi très drôle. Ma sacoche donne l'heure. j'en ai une là, un peu longue. Là. Quand je nage, je suis bien, car là, personne parle plus fort que toi. Même pas le requin marteau. Alors, vous pouvez vous imaginer quel genre d'œuvre ça peut donner.
Oui, exactement.
Et bon, ça.
En fait, on l'imagine pas parce que ça peut donner des millions d'œuvres différentes, quoi, c'est ça.
Voilà, et souvent on est surpris oui, justement par l'œuvre oui, qui apparaît. Oui.
Ils ont tous les âges, ceux qui viennent chez vous et qui s'adonnent à cet art thérapeutique.
Oui, de 18, en fait, 18 ans et plus. Beaucoup de personnes âgées dans l'historique, mais oui. de plus en plus de gens.
Oui, oui, oui. oui.
Oui. D'ailleurs, je m'en allais dire avec... je ne sais pas combien de temps il me reste d'habitude.
Oh, il vous reste voilà. un bon gros 2 minutes, d'accord. Mon ami, il n'y a aucun
Mais
problème.
Je voulais dire que c'est important d'aller visiter le site impatient.ca oui. parce qu'on a des ateliers de médiation. Donc, des ateliers pour les jeunes qui vont faire toutes sortes d'activités avec justement les mots, avec les dessins et aussi des ateliers pour adultes. Donc,
okay.
participatifs
oui.
avec... Donc, on met en valeur l'exposition, mais c'est très interactif, c'est vraiment intéressant.
Qui donne ces ateliers-là?
C'est une animatrice des impatients.
D'accord. Oui. OK. Donc, qui est vraiment engagée par vous
oui,
et qui a eu une formation pour travailler.
Ah oui, une médiatrice. Avec...
C'est
oui,
ça.
Professionnelle.
OK. Alors, bon, écoutez, ça, c'est pour l'exposition en ce moment. Elle oui. est en cours jusqu'au mois d'octobre.
Exactement.
On va rappeler l'adresse.
100 Sherbrooke Est, 4e étage.
100 Sherbrooke Est, au 4e étage, ça veut dire qu'on est à quelques centaines de mètres.
C'est tout près.
Hein, c'est vraiment tout près de nos nouveaux studios. C'est ouvert tous les jours?
Vérifiez les heures d'ouverture d'été, surtout. Vérifiez sur le site avant.
D'accord. Alors, et le site, c'est simplement lesimpatients.ca.
Impatient avec un S.
Avec un S.ca.
Voilà.
Merci beaucoup, Frédéric. C'était déjà la première, mais il va y en avoir d'autres parce qu'on a envie encore de mieux connaître, parce qu'il y a beaucoup d'activités qui se passent aussi à l'extérieur de Montréal
oui.
et on a envie d'en savoir beaucoup plus là-dessus.
Excellent, ça me fera plaisir.
Alors, on va
de
vous
revenir.
Accueillir avec grand plaisir. Merci beaucoup et bonjour à toute l'équipe et à toute la famille, parce que c'est pas mal un travail en famille, ça.
Oui, oui,
notre
oui.
affaire, là.
C'est la mère qui a fondé.
C'est ça, exactement.
Suis.
C'est maman qui a fondé.
oui.
On s'en reparlera à la prochaine chronique.
Merci
beaucoup, Frédéric.
Et bonne fin de journée à tout le
monde. À vous aussi. Au revoir. Aime l'été. Et je vous le disais un petit peu plus tôt, on aime bien aussi sortir des frontières du Québec et puis aller voir ailleurs comment ça se passe. On aime tellement bien ça qu'on n'a pas l'habitude, alors on se trompe un petit peu avec les fuseaux horaires, mais on finit toujours par y arriver. Et là, je devrais parler avec Madame Hélène Larivière. Nous sommes au Manitoba. Bonjour Madame Larivière.
Bonjour.
Alors Madame Larivière, vous êtes directrice de l'EPIC de Saint-Malo. Alors, c'est où exactement c'est un, et qu'est-ce que c'est exactement que l'EPIC de Saint-Malo et pourquoi ce nom?
EPIC de Saint-Malo, c'est pour entreprise pour l'intégration communautaire pour des individuels adultes avec des problèmes intellectuels.
D'accord.
Oui.
OK. Problème intellectuel et physique ou...
Et physique, oui.
Et physique.
Physique, oui.
D'accord. Alors, vous êtes donc au Manitoba.
Oui.
C'est, où précisément pour nous situer un petit peu
Saint-Malo.
Oui, Saint-Malo, c'est où? Oui. C'est ça que je voulais savoir au Manitoba.
Saint-Malo, c'est au sud du Manitoba. C'est à, on dirait, 65 kilomètres au sud de la ville de Winnipeg.
Ah, d'accord. Bon, ben alors là, oui. ça me situe. OK. Oui. Alors, il y a un Saint-Malo au Manitoba.
Oui.
Est-ce qu'il y a des remparts?
Non, <c'est... rire>
comme le Saint-Malo que nous connaissons bien de l'autre côté de l'Atlantique. Madame Larivière, je vous remercie beaucoup d'avoir accepté de nous parler aujourd'hui. On va donc faire connaissance un peu plus avec l'EPIC de Saint-Malo et des programmes que vous offrez.
Oui.
D'abord, ça fait combien de temps que ce programme existe?
Depuis 1974.
1974. Et évidemment,
oui.
C'est un programme bilingue.
Oui, c'était le seul programme bilingue au Manitoba.
Au Manitoba, ça veut dire que vous accueillez autant des personnes qui sont de anglophones ou francophones.
C'est ça.
OK, parce que je ne me rends pas compte, mais est-ce qu'il y a quand même une communauté francophone assez importante au Manitoba, non?
Certainement, surtout dans notre district ici, on a le village de Saint-Pierre-Joly.
Ah oui?
Oui, Saint-Malo, Saint-Jean-Baptiste, Saint-Anne-des-Chênes.
Okay. C'est vraiment un petit bastion francophone. C'est comme une petite bulle francophone, comme aurait dit Yves Dutheil dans sa chanson.
Oui.
Alors, vous offrez un centre de jour. Il y a combien de personnes que vous pouvez accueillir, notamment, madame, à l'EPIC?
Oui, maintenant, à ce moment, nous avons 61 participants dans notre programme de jour qui, c'est un programme d'apprentissage.
D'accord.
On a des contrats, des sous-contrats et des contrats pour travailler le bois, le recyclage, on a la couture, on a l'assemblage.
Ah oui.
Oui.
Ah oui, OK.
Oui.
Et il y en a même, je lisais quelque part, il y en a qui travaillent dans des magasins autour de chez vous.
Oui. Certainement. Nous avons la coopérative de Saint-Malo. Nous avons du monde qui vont placer des choses sur les étagères. On a des magasins de seconde main qu'on envoie du monde travailler là. Des garderies.
Ils sont payés. Ils font pas ça bénévolement, là.
Ils ont
un petit salaire, quand même.
Un petit salaire, oui.
Bon,
oui,
d'accord. Et je voudrais vous poser cette question-là parce que pour nous, parfois, c'est un petit peu difficile, l'inclusion des personnes handicapées dans le milieu sociétal. Chez vous, comment ça se passe, madame? Est-ce que vous rencontrez les mêmes difficultés?
Moi, je dois dire que dans ce petit village et les villages qui sont autour de nous, on voit pas cette difficulté-là comme qu'on voyait 15-20 ans passés. Alors moi, je suis ici depuis 2002, et puis j'ai vu un gros changement déjà.
Ah oui?
Puis il suffit qu'on ait eu ce programme dans cette communauté depuis 1974. Sont très bien inclus dans notre communauté. Il y a là tous les programmes que tout le monde doit.
Oh, c'est peut-être... Oui. Est-ce que c'est, d'après vous, dû peut-être au fait qu'on n'est pas à Winnipeg, qu'on n'est pas dans une grande ville, mais en région, ou disons que c'est plus, entre guillemets, humain?
Oui, je crois que ça a beaucoup à faire avec ça. C'est plus personnel. Hein? C'est un petit village de 800-900 personnes. Alors, c'est plus personnel.
Ah oui.
Oui.
Ah, ben écoutez, je suis tellement contente qu'on se parle parce que là, je commence un petit peu mieux à imaginer ce qu'est Saint-Malo et puis des gens aussi qui vivent en français beaucoup, qui magasinent en français et ça se passe bien. Tout le monde s'entend bien. Alors donc, vous avez, on le disait, un centre de jour, mais vous avez aussi un programme de transition de septembre à juin, de quoi parle-t-on exactement, Madame Larivière?
Le programme de transition, c'est les élèves qui sont de différentes divisions scolaires qui sont autour de nous. Et puis, ils ont un peu de difficultés, alors ils sachent, c'est un choix qu'ils peuvent prendre de venir avec nous une fois qu'ils ont 21 ans. Alors la transition, c'est que les écoles les envoient avec des aides pour voir s'ils sont capables de faire l'ouvrage qu'on fait ici.
Okay.
Et puis, c'est pas tellement un gros changement pour eux autres quand ils deviennent 21 ans puis ils viennent
Oui,
partie de notre programme.
Oui, c'est ça, parce que c'est apparemment pareil au Manitoba comme ici. Lorsque des jeunes ont des difficultés intellectuelles ou autres, lorsqu'ils arrivent à 21 ans, il n'y a plus d'aide.
Il n'y a plus rien pour eux autres.
Il n'y a plus rien, donc c'est vraiment comme au Québec pour ça.
Oui, oui.
Oui, bon.
Alors, ça fait la transition plus facile. Puis, ils font leurs amis avant de devenir une partie de notre programme. Alors, oui. C'est pas un si gros pas.
Non, prendre. C'est ça. Ils sont pas tout d'un coup parachutés, là, comme ça, chez vous.
Oui,
ils
exactement.
Ah, ben ça, c'est formidable. Mais il y a... L'EPIC, c'est plusieurs maisons à Saint-Malo, hein? Vous avez donc plusieurs lieux d'hébergement, c'est ça?
Oui. Nous avons 4 maisons à Saint-Malo. Nous sommes prêts à travailler avec le gouvernement pour avoir notre 5e maison.
Oui.
Et puis, nous aimerons avoir une autre maison dans le petit village de Auburn ou Saint-Pierre-Joly.
Oui.
Aussi, pour donner le choix, pas tout le temps avoir tout dans le même village.
Oui.
Donner la chance aux autres et donner des différents choix pour que le monde puisse décider où ils vont vivre.
Bien sûr.
Alors, oui. On a 4 maisons qui... avec à peu près 4 résidents par maison.
4 résidents par maison. Mais dites-donc, ça représente beaucoup d'employés, ça?
Oui, c'est 24 heures par jour.
Ah,
alors,
oui, hein?
Avec les 2 programmes, on a un peu au-dessus de 64 employés.
Ah oui, quand même. Est-ce qu'il y a des bénévoles aussi? Est-ce qu'il y a des gens qui font du bénévolat, oui?
Oui, on a beaucoup de monde qui viennent faire du bénévole.
OK.
Où ils prennent puis les amènent dans la communauté pour faire des affaires que n'importe qui aimerait faire.
Ben oui, c'est sûr.
On a beaucoup de volontaires qui font ça, oui.
Ah, ben c'est fantastique. Oui. Bon, ben écoutez, Madame Larivière, c'était un plaisir de vous parler et de faire connaissance. Et j'espère qu'il y a d'autres lieux comme ça partout au Canada qui vont accepter très gentiment de nous parler, de nous faire visiter un petit peu ce lieu qui est plus lointain. C'est grand, le Canada, hein?
Oh là là. C'est grand, le Canada, oui.
Est-ce que vous connaissez un peu le Québec, Madame Larivière?
Oui, je connais un peu, oui.
C'est vrai? Ah ben bravo. Moi, écoutez, je n'ai jamais eu la chance encore d'aller au Manitoba, mais c'est pas
si
possible.
Si vous venez au Manitoba, je vous invite de venir voir notre petit programme.
Oh, mais écoutez, je mets Saint-Malo je vais l'entourer en rouge sur ma carte.
Ça marche.
Voilà, Madame Larivière. Hélène Larivière, je rappelle que vous êtes la directrice de l'EPIC de Saint-Malo, un centre de jour et un lieu d'hébergement pour des personnes handicapées mentales et physiques, et que vous recevez tout ce beau monde en français et en anglais. Merci beaucoup à vous, Madame Larivière, et à votre équipe. Canalem embrasse toute l'équipe de l'EPIC et tous les gens que vous soutenez au quotidien. Voilà.
Merci beaucoup.
Mais je vous en prie, Madame Larivière, au revoir.
Au revoir.
Santa Fe, je t'ai trompé. À Singapour, c'était ton tour. À Saint-Tropez, pour un PD marié. Le jour d'avant, pour son amant. San Pedro, macho, mazo, a Sosua, sous la véranda, a Hollywood, Hollywood, mon amour, je n'aimerai toujours que toi,
à Montpellier. À Saint-Maurice, pour une actrice. Wow. À Osaka, pour une geisha. À l'île des Sorts, pour un pêcheur. C'est comme ça. Oh boy.
Michel, c'était ta plus belle.
À ton wagon, c'était ton plus gros.
Mais à Hollywood, Hollywood, mon amour, je n'aimerais toujours que toi. Je n'aimerai que toi. Hollywood, 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 hey, Hollywood.
Oui, Anne Victor, un vieux souvenir. Geneviève Bilodeau, maintenant, ben, elle a fait son chemin toute seule en tant que comédienne. Et puis Martin Léon, ben, on sait le chemin qu'il fait comme auteur, compositeur, interprète, mais compositeur de musique de film aussi, monsieur Léon. Ce qui m'amène, ça n'a rien à voir avec Anne Victor et Martin Léon, je me tourne tout spontanément vers Kevin Lamy qui est en studio avec moi. Kevin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes de l'association des amputés de guerre. Si je ne m'abuse, vous êtes le responsable quoi, de la promotion des événements,
oui,
du marketing.
Ça. Donc, je suis coordonnateur de la promotion.
De la promotion. Mmh. Et Dieu sait s'il y a à dire beaucoup, parce que ça bouge beaucoup du côté des amputés de guerre. Je sais qu'il y a énormément d'événements hein, qui se déroulent à droite et à gauche. Et prochainement, il va y avoir un séminaire.
Oui, justement, cette fin de semaine-ci. On réunit plusieurs familles, environ 80 familles avec qui ont des enfants amputés,
ouais.
Un enfant amputé, et on les réunit ensemble avec dans un hôtel au séminaire.
D'accord.
Justement pour être capable d'avoir des astuces pratiques sur l'amputation. On va parler de prothétique, mais aussi on va offrir un soutien moral à ces
oui.
familles-là. Donc, c'est très, très, très important.
Oui, ça veut dire qu'entre autres, il y a des gens qui viennent témoigner ou des jeunes qui viennent témoigner, c'est ça?
Et voilà. Donc, on a des plus vieux, des adultes maintenant qui viennent témoigner, faire part de leur histoire,
oui.
leur témoignage.
Oui.
Et ça encourage les plus familles qui ont des jeunes enfants à voir, même si mon enfant est amputé, ben, coudonc, on peut réussir dans la vie.
Mais oui, absolument.
Donc, voilà l'importance d'un séminaire auprès des familles avec des enfants amputés.
Et on parle d'entraide, mais est-ce qu'on parle de ressources aussi?
Oui, bien sûr. Quand on parle de prothétique, il y a tellement de nouvelles technologies, ça se développe tellement rapidement qu'on peut offrir de l'aide avec différentes informations sur les prothèses, que ce soit des prothèses pour les jambes ou pour les bras. C'est tellement avancé. Et maintenant, bien, on a aussi de l'imprimerie 3D, donc qui s'en vient, qui se rajoute à ça.
C'est incroyable, ça.
Donc, donc, la technologie est vraiment avancée. On voit que c'est vraiment...
Quand ça fonctionne, quoi.
Et voilà, justement.
Non, parce que malheureusement, c'est souvent que... Alors, qui sont les vainqueurs? Et pourquoi vous avez choisi ce terme?
Donc, le séminaire Les Vainqueurs. Nous, à l'Association des amputés de guerre, on prône le positif. Donc, le thème de cette année, de le séminaire de cette année, c'est ce qui reste qui compte. Donc, même si on est amputé d'un membre, que ce soit une main, un bras, même une jambe, mais c'est qu'est-ce qui reste qui compte. Donc, c'est là que c'est important de voir, de regarder le positif de la chose et de continuer de vivre dans la vie et ne pas s'arrêter sur les différents obstacles qu'on a. Et c'est là qu'on est capable de mettre le positif de la chose et de surmonter les différentes obstacles que la vie nous donne, malheureusement.
Vous-même, monsieur Lamy, je voudrais préciser, vous n'êtes pas handicapé, mais vous êtes en fauteuil roulant, en situation, et vous-même, vous avez été aidé.
Et
soutenu.
Voilà.
C'est la raison pour laquelle vous passez aux autres
et
maintenant.
Et voilà, justement. Donc, moi, j'ai bénéficié du programme Les Vainqueurs. J'ai été à plusieurs séminaires tout au long de ma vie. Depuis l'âge de 2 ans que je suis inscrit au programme Les Vainqueurs.
En effet.
Donc, j'ai grandi avec eux. C'est devenu comme pour moi une deuxième famille.
Oui,
On voit que c'est vraiment important pour le soutien moral de la vie d'un vainqueur, la vie d'un enfant amputé.
Oui.
On voit qu'on n'est plus seul dans le monde à être dans cette situation-là. Donc, c'est pourquoi que nous, on aide ces familles-là.
Bien sûr.
Puis c'est grandement apprécié de plusieurs personnes.
Et puis, bon, le nom est resté les amputés de guerre, mais on sait que malheureusement, il y a de plus en plus d'accidents aussi qui font que des jeunes sont victimes.
Moi, personnellement, je suis né comme ça. Donc,
La
naissance, j'avais des petits bras.
D'accord.
Mais par contre, on a de plus en plus de jeunes au fil des ans qui sont inscrits au programme Les Vainqueurs à la suite d'un accident. Et malheureusement, l'accident le plus populaire, c'est la tondeuse à gazon.
Ah oui.
Et malheureusement, c'est très traite comme accident. C'est si vite arrivé. Et on fait une campagne spéciale justement de prudence pour éviter ces accidents-là auprès des jeunes enfants. Donc,
avec qui nous en parlions hier? Avec M. Lantaigne, que vous connaissez
c'est
peut-être,
ça,
qui est le directeur de la Fondation Réa. Hein?
Oui, c'est bien ça. Et il a fait partie aussi de l'Association des amputés de guerre.
Bon, c'est ça.
Et lui, son accident, justement, c'était
à cause 4 ans, d'une, c'est ça, une tondeuse.
Donc, là, pourquoi qu'on met l'accent sur l'importance de toute cette sécurité-là, de
bien
prudence
sûr.
Auprès des enfants.
Alors, on va redonner les dates du séminaire, le lieu aussi à Laval.
Oui, c'est bien ça. Donc, c'est du 7 au 9 juillet, donc
d'accord.
En fin de semaine, à Laval. Et on réunit à peu près une 80 familles avec un enfant amputé pour l'aide morale
d'accord.
de tout ça.
Est-ce qu'on peut encore s'inscrire ou c'est complet? Là?
Non, c'est complet.
C'est
notre
complet.
Liste
bon.
Est complète.
D'accord.
Donc, les adhérents qui ont déjà eu leur invitation et tout.
Bon,
donc,
bon.
C'est ça. Donc,
non, ça va.
On va parler de prothèses.
Oui, c'est ça. Ben oui.
Et les différentes innovations,
bien
soutien
sûr.
Moral.
La réalité.
Et voilà, okay. Justement.
D'accord. Et puis, je voudrais un petit mot avant que vous nous quittiez. Je voudrais que vous nous parliez du financement. Et de, entre autres, les plaques, porte-clés. Moi, Dieu sait si ça m'a déjà servi au moins 2 fois dans ma vie. On va peut-être rappeler ce que c'est. Et puis, comment on fait? Il suffit de vous donner de l'argent et on reçoit automatiquement des... Non? Comment
oui,
ça se passe?
Oui, c'est bien ça. Donc, c'est bien important de mentionner que l'Association des amputés de guerre ne reçoit aucune aide du gouvernement. Donc, aucun fonds qui vient du gouvernement.
Pourquoi?
Parce que nous, on vient en aide, ce que le gouvernement n'aide pas. Donc, le gouvernement va fournir pour une première prothèse, exemple, à un enfant. Mais la prothèse qui est utilisée pour aller faire de la natation, par exemple, une prothèse récréative, ça, c'est pas fourni par le gouvernement. Donc, c'est là que nous, on vient en aide aux familles pour l'achat de prothèses récréatives. Et comme qu'un enfant, ça grandit vite, bien, on change souvent les prothèses.
Mais oui.
Donc, là, pourquoi que nous, on vient en aide à ces familles-là, année après année, on va aider avec l'achat de prothèses. Et bien, comme qu'on ne reçoit aucun sou du gouvernement, bien, c'est le service des plaques porte-clés qu'on offre aux gens du public qui fait en sorte qu'on peut aider ces familles-là.
Ça, là, je vais le redire, monsieur l'ami, Kevin, parce que je me parle aussi. Parce que vous savez, parfois, on a l'enveloppe là sur le bureau, puis ça traîne. Mais c'est vrai.
Bien sûr.
Et je suis la première comme ça. Alors, on va le redire et le redire encore à chaque fois que vous faites un don pour l'association des amputés de guerre. Vous contribuez, nous contribuons directement à fabriquer des prothèses, entre autres pour les jeunes. Et les jeunes, eh bien, la prothèse change souvent.
Et voilà.
Et pour les adultes, une fois qu'un adulte a sa prothèse, est-ce que ça a une durée de vie, ça? Ça dépend évidemment de l'activité, j'imagine, qu'on
bien
en
sûr,
fait.
Bien sûr. C'est sûr qu'on va changer moins souvent parce qu'en tant qu'adulte, on ne grandit plus. Donc, on va changer avec l'usure. Mais quand même, les prothèses coûtent quand même quelques milliers de dollars.
Donc,
c'est grandement apprécié des gens qui sont pas en moyen ou qui peuvent veulent faire une activité spéciale.
Et vous pouvez en faire combien par année, mettons?
Je ne sais pas, parce qu'on est quand même au Canada au complet. Donc, on est au pays. On aide des enfants, les adultes aussi au pays. Donc, c'est un peu trop gros pour moi de savoir là, combien de personnes qu'on aide à chaque année.
Oui, mais là, on dit vraiment que c'est canadien. Là,
oui, canadien.
C'est pas juste québécois.
Et voilà.
OK.
Oui.
Ben, écoutez, je voudrais qu'on rappelle où est-ce qu'on peut vous joindre, où est-ce qu'on peut donner de l'argent.
Bien sûr. Donc, notre site internet, amputedeguerre.ca, amputé prend un S, bien entendu. Donc, amputedeguerre.ca. www.lutte.ca et vous pouvez toujours nous téléphoner au 1-800-250-3030 pour toute autre question, que ce soit pour le service des plaques porte-clés ou le programme Les Vainqueurs.
Alors, 1-800-250-3030. Voilà, je me parlais avec M. Kevin Lamy. Kevin, merci beaucoup d'être venu. Je rappelle que vous êtes le directeur de la promotion chez...
Juste le coordonnateur.
Bon, bah écoutez, tant pis pour le directeur. De toute façon, c'est vous qui étiez là.
C'est très bien. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, M. Lamy. Bonne journée, puis bon succès pour le séminaire.
Merci.
Au revoir. J'ai quelques titres en rafale pour terminer cette émission. Sachez qu'à la station de métro Henri Bourassa, l'ascenseur reliant le niveau intermédiaire de la station au quai Côte-Vertu est présentement hors service pour leur permettre de changer le moteur. La date de remise en service est prévue pour le mois d'août 2017. Si vous voulez descendre à la station Henri Bourassa à partir de l'une des stations de Laval, le rendez-vous en métro à la station Jean Talon, puis ensuite, alors en fait on vous dit... Allez à la station Jean... la station Jean Talon. Puis vous reprenez le métro en direction Montmorency jusqu'à Henri Bourassa. Et l'ascenseur, là, sur le quai Montmorency, est fonctionnel. Voilà ce que j'ai eu tellement de mal à vous dire. Également, en rafale aujourd'hui, bourse d'études de la Fondation En Vue de l'Institut Nazareth et Louis Braille, l'INLB. Pour l'année scolaire 2017-2018, la Fondation En Vue de l'Institut Nazareth et Louis Braille met en place un programme de bourse d'études. Ce dernier vise à encourager les étudiantes et étudiants ayant une déficience visuelle à poursuivre des études dans le domaine de leur choix. Des bourses d'une valeur de 30 000 $ seront remises dans les trois catégories suivantes. Étudiantes ou étudiants au niveau secondaire, éducation aux adultes ou formation professionnelle, étudiantes ou étudiants au niveau collégial ou au niveau universitaire. Alors, la date limite pour soumettre votre candidature, c'est le 31 août 2017. Pour plus d'informations sur ce programme de bourse, rendez-vous sur le site web de la Fondation VU ou téléphonez au 1-800-361-7063. 1-800-361-7063, le poste 604. Entreprise ou organisme favorisant le plein air accessible au Québec recherché par Kéroul grâce à une aide financière du ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport. Kéroul, en collaboration avec l'Association québécoise de loisirs pour les personnes handicapées du Québec, la QLPH, rédige présentement un document de pratiques inspirantes en matière de plein air accessible. Ce document présentera le matériel et les ressources disponibles afin de soutenir les entreprises qui souhaitent offrir des services et des programmes aux clientèles ayant une incapacité, autant enfants qu'adultes. Nous traiterons d'activités terrestres, nautiques, aériennes et hivernales en fonction de nombreux types d'incapacités, motrices, auditives, visuelles, intellectuelles, etc. Alors, si vous connaissez ou gérez une entreprise ou un organisme favorisant le plein air accessible au Québec, eh bien, il nous ferait bien plaisir de les intégrer à ce document. Pour en savoir plus, nous vous invitons à contacter Julie-Anne Perrault à Japerrault, je dis bien 2RAULT, @kéroul.qc.ca. Et puis aussi l'Horizon, un centre multifonctionnel pour personnes handicapées et leurs familles situé à Léry, recherche des bénévoles. Homme à tout faire pour travaux intérieurs, réparations et extérieurs, l'entretien, été comme hiver, le déneigement, entre autres des rampes d'accès. J'imagine aussi passer un petit coup de tondeuse. Femme de ménage quelques jours par semaine pour l'entretien intérieur, à l'extérieur aussi. Et puis des accompagnateurs, accompagnatrices d'intervenants auprès des participants durant les dîners ou les activités. Pour aider aussi à la mise à jour du site internet, on aurait besoin de bénévoles. Soyez gentils de contacter l'Horizon à Châteauguay dans le 450-692-6000. 6000, le poste 105. Voilà, ainsi se referme l'édition du 5 juillet de M l'été. Merci beaucoup à toute mon équipe qui collabore oui, très fort à la production de cette émission-là. Merci à tous mes invités en direct ou au téléphone. C'était Clotilde Seille qui vous souhaite une excellente journée et qui vous donne rendez-vous demain matin à midi.